Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
À la une de ce magazine, la crise syrienne une fois encore et les interrogations que soulève l'imminente intervention des puissances étrangères occidentales, nous répercuterons les appels à la retenue. Nous reparlerons du dossier égyptien quelque peu relégué au second plan ces jours-ci. Les évêques américains appellent la Maison Blanche à venir en aide aux pauvres qui constituent environ 40% de la population. Ce sont eux qui payent le prix des crises politiques et des violences. C'est l'heure de la réconciliation en revanche pour les Polonais et les Ukrainiens, 70 ans après l'un des pires massacres de la Deuxième Guerre mondiale. Après avoir lancé un appel au pardon réciproque, les églises catholiques des deux pays se rencontrent à la frontière. En fin d'émission, rediffusion d'un entretien avec le cardinal Ricard sur le thème très actuel de la laïcité en France. Les États-Unis et leurs alliés continuent à travailler pour définir les modalités et les objectifs précis d'une éventuelle intervention en Syrie, dont le but serait de dissuader Bachar al-Assad d'utiliser une nouvelle fois des armes chimiques et de neutraliser ses moyens pour y parvenir. Une intervention qui, vous le savez, est loin de faire l'unanimité au sein de la communauté internationale, surtout si cette action de force devait être menée sans l'aval du Conseil de sécurité, comme cela semble probable. Si la plupart estiment qu'il faut sanctionner l'utilisation d'armes chimiques, certains demandent des preuves, d'autres s'inquiètent des conséquences régionales. Dans les rangs des chrétiens, les exhortations à la prudence deviennent de plus en plus pressantes. La communauté monastique syrienne de Deir Marmoussa, dirigée par le jésuite italien Paolo Dall'Oglio, dont on est sans nouvelles depuis plusieurs jours, a lancé un appel à la non-violence. Les moines et les moniales invitent les puissances occidentales à agir avec justice, c'est-à-dire en faisant cesser le bruit des armes et pas en accentuant les divisions. Une inquiétude que partage Mgr Maroun Laham, vicaire patriarcal latin de Jérusalem pour la Jordanie. Il est interrogé par Manuela à Fidji.
C'est triste, d'abord pour la Syrie. On n'a aucune envie que le scénario de l'Irak se répète. Et puis c'est triste pour la Jordanie parce que nous sommes limitrophes et déjà nous avons presque 1 million de Syriens chez nous. Donc on a peur pour nous certainement et j'espère qu'à la fin, la raison prévaille chez les grands. Est-ce qu'ils arrivent à une solution politique? Mais ça ne semble pas être le cas.
Vous semblez particulièrement pessimiste sur la situation.
Je suis très pessimiste. Et j'attends le pire.
Vous attendez le pire, c'est-à-dire une intervention armée?
Oui, c'est-à-dire peut-être pas par terre, mais certainement des frappes aériennes, etc., etc. On ne pourra pas prévoir la réaction syrienne, ni celle de Hezbollah, ni celle de l'Iran, ni celle d'Israël, si jamais Israël est attaqué. Mon Dieu! Ils vont se chamailler. Je désire vous demander de prier pour la paix dans cette terre sainte et qu'elle passe des moments de calvaire à quelques lueurs de la résurrection.
À ces voix chrétiennes s'est jointe celle du prix Nobel de la paix, Mairead Maguire, récompensée en 1976 pour son engagement en Irlande du Nord. Dans une note envoyée à l'agence Vatican Fides, elle affirme qu'une action militaire ne résoudra pas les problèmes de la Syrie. Elle peut au contraire provoquer un éclatement du pays et d'autres morts. C'est tout le Moyen-Orient qui risquerait alors d'être déstabilisé et abandonné à une violence incontrôlée. Mairead Maguire, qui a effectué cette année une mission de paix en Syrie pour le compte d'une ONG, est convaincue que ce pays a été embrasé par des forces extérieures qui ne visent que leurs propres intérêts politiques. Il y a, selon elle, sur le territoire syrien, des milliers de combattants étrangers financés par des pays étrangers. Elle demande en particulier aux ministres français et britanniques des Affaires étrangères d'opter pour le dialogue et la négociation en tenant compte de l'échec des actions militaires en Irak, en Afghanistan et en Libye. À propos de l'Irak, justement, les violences sont désormais quotidiennes. L'instabilité a été amplifiée par la crise syrienne, avec des conséquences graves sur la région entière. Antonino Gallofaro a joint le patriarche de Babylone des Chaldéens, Louis-Raphaël Ier Sacco.
Chaque jour, il y a des explosions et des attaques et des gens morts. Parfois, on donne un nombre qui n'est pas exact. Les morts sont beaucoup plus nombreux. Donc, il y a 2 mois, ça commence à cause des élections entre les groupes politiques et aussi de la situation régionale qui a une répercussion sur la situation irakienne. Donc tout le Moyen-Orient semble être comme un volcan. On ne sait pas où on va. La situation irakienne est touchée par la situation en Syrie, c'est déjà clair, mais aussi en Égypte. Ce conflit entre les groupes des musulmans eux-mêmes, les sunnites et les chiites, ou le régime et l'opposition, ça a une répercussion sur la situation de tous ces pays-là. Et ça se propage. Aujourd'hui, l'Irak, après 10 ans d'invasion sous le prétexte des armes chimiques, et ils n'ont pas trouvé d'armes chimiques, le pays est détruit. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de sécurité, il y a beaucoup de corruption, il y a beaucoup de conflits. Et jusqu'à quand? Aujourd'hui, ils voudraient faire la même chose en Syrie.
C'est un nouveau scénario irakien pour vous, si je vous comprends bien?
Oui, vraiment, nous sommes très préoccupés. Au lieu de faire quelque chose de militaire, c'est mieux d'aider le régime et l'opposition à se réconcilier et trouver une solution politique. Faire pression sur le régime et l'opposition de s'asseoir ensemble et trouver une solution politique. Pourquoi ces attaques-là? Après, qu'est-ce qu'il y aura? Ça sera une confusion totale.
C'était le patriarche chaldéen de Bagdad, Mgr Sacco. Aux États-Unis, les évêques catholiques ont demandé au secrétaire d'État John Kerry d'œuvrer en faveur d'une augmentation de l'assistance humanitaire et économique à l'Égypte au profit des plus pauvres. Le président de la Commission épiscopale pour la justice internationale et la paix, Mgr Pate, insiste dans sa lettre au secrétaire d'État sur les difficultés rencontrées par la population et sur la nécessité de promouvoir au niveau international des interventions de paix et de soutien aux plus vulnérables. Les évêques américains sont particulièrement préoccupés par le sort des chrétiens ainsi que des réfugiés venus des pays voisins. Par le biais de ses services d'assistance, l'Église américaine collecte actuellement des fonds pour contribuer financièrement à la reconstruction des écoles catholiques détruites ou endommagées par les partisans des frères musulmans, alors qu'elles sont connues pour la qualité de leur enseignement et fréquentées par les chrétiens comme par les musulmans. Le directeur de l'Institut dominicain d'études orientales du Caire a tenu à rappeler pour sa part que le peuple égyptien soutenait massivement la lutte en cours contre l'extrémisme des frères musulmans qui, dit-il, sont aujourd'hui démasqués. Dans les colonnes du quotidien français La Croix, le père Jean-Jacques Pérennes a expliqué que Mohamed Morsi s'était comporté de manière sectaire. Les frères musulmans n'ont offert qu'un discours politico-religieux à une population qui attendait du travail et plus de justice sociale. Selon lui, le récent mouvement populaire laisse espérer un coup de frein, sinon un coup d'arrêt à l'islam politique qui empoisonne le destin du Moyen-Orient depuis des décennies. Les catholiques polonais et ukrainiens veulent tourner la page d'un passé difficile. Ils ont décidé de se retrouver à la frontière entre leurs deux pays pour évoquer ensemble la mémoire des victimes des tueries et du nettoyage ethnique perpétré dans la région de Volyn au cours de l'une des pages les plus douloureuses de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ce massacre et la brutalité avec laquelle il a été commis restent profondément gravés dans la mémoire polonaise. Xavier Sartre.
100 000 Polonais furent tués par les nationalistes ukrainiens en 1943 dans une province frontalière revendiquée par les deux pays. L'armée insurrectionnelle ukrainienne, branche militaire de l'Organisation des nationalistes ukrainiens, voulait profiter de la guerre pour obtenir l'indépendance de l'Ukraine et chasser la minorité polonaise de ses territoires. Dotés de peu de munitions, les nationalistes ukrainiens ont tué avec des haches, des scies. Ils noyaient les victimes, femmes, enfants et vieillards, dans des puits. En représailles, la résistance polonaise anti-nazie et anti-soviétique a tué quelques 20 000 Ukrainiens. À la mi-juillet, le 70e anniversaire de ce massacre a donné lieu en Pologne à un débat émotionnel entre l'opposition de droite et les libéraux au pouvoir. Ces derniers ont voulu par-dessus tout éviter d'envenimer les relations avec l'Ukraine, elle-même tiraillée entre Moscou et l'Union européenne. Le président polonais Bronisław Komorowski a ainsi exhorté les deux pays à soulever l'immense poids de la douleur de mémoire de ces terribles jours, des jours ignobles, mais des jours qui sont déjà du passé. L'Église catholique prévoit une autre commémoration le 8 septembre prochain. Le président de la Conférence des évêques de Pologne et l'archevêque-major de Kiev pour les Grecs catholiques guideront la prière côte à côte.
Dans une déclaration commune en juin dernier, les deux églises ont appelé leurs deux peuples à la réconciliation dans le pardon réciproque et au nom de la justice. Et en Colombie, une vingtaine de responsables religieux vont participer le 4 septembre à une grande célébration pour la paix. Elle a été convoquée par l'Assemblée colombienne des religions et spiritualités. Des personnalités politiques, des diplomates, des représentants des organisations internationales et des ONG ont été invités à assister à la prière. Une déclaration conjointe sera publiée à cette occasion au sujet des pourparlers actuellement en cours entre le gouvernement colombien et la guérilla des FARC. Ces négociations qui portent notamment sur la participation des FARC à la vie politique ont repris lundi à La Havane. Les deux parties ont annoncé la convocation d'un forum social consacré au troisième point de l'ordre du jour, à savoir le trafic de drogue. C'est encore l'été à Rome et les audiences générales du pape François ne reprendront que le mercredi 4 septembre. Mais les journées du Saint-Père sont malgré tout bien remplies. Ce mercredi, il s'est adressé dans la basilique Saint-Pierre à un groupe de quelques 500 jeunes Italiens venus en pèlerinage à Rome à l'occasion de l'année de la foi, avant d'aller célébrer une messe dans une église du centre historique de Rome, l'église Saint-Augustin, à l'occasion de l'ouverture du chapitre général de l'ordre des Augustins. Audrey Radondi a rencontré Hyacinthe Pomaggi, un novice béninois. Pour lui, cette rencontre avec le pape est importante pour plusieurs raisons.
Ça, vraiment, je suis très content de participer à une messe corps à corps avec le pape. Bon, cela exprime la fraternité du pape avec l'église entière et puis sa collaboration directe avec les augustiniens en particulier. C'est vraiment un plaisir de le voir avant d'entrer au noviciat. Puis ça me dit que la papauté n'est pas une royauté en quelque sorte qui se retire de ses fidèles, mais ça rapproche le pape de ses fidèles. Donc le pape est en train de nous donner un exemple concret qui pourrait nous amener à nous rapprocher les uns des autres. C'est essentiel parce qu'il faudrait ces exemples-là pour que l'Église évolue. On ne peut pas être un responsable sans se rapprocher de ses gouvernés, pour savoir de quels maux il souffre, de quoi il a besoin réellement.
Et pendant que ces appels téléphoniques personnels passionnent les médias, le pape François prépare la rentrée plus discrètement mais activement dans la résidence Sainte-Marthe au Vatican. Une rentrée qui s'annonce particulièrement chargée dès le mois de septembre. Mardi, il a reçu le doyen du Sacré Collège, le cardinal Angelo Sodano. Et ce mercredi matin, c'était le tour d'un haut responsable de la secrétaire d'État, Mgr Antoine Camilleri, sous-secrétaire pour les rapports avec les États, et d'un dirigeant du gouvernorat de l'État de la Cité du Vatican, le père Vergès Alzaga, responsable des télécommunications. Enfin, je vous rappelle que ce jeudi, le souverain pontife recevra en audience le roi de Jordanie, Abdallah II, accompagné d'une délégation. Une audience qui suscite bien sûr un grand intérêt dans le contexte de la crise syrienne. Il y a une semaine, dans des propos rapportés par l'agence de presse officielle jordanienne Petra, Abdallah II avait averti que la poursuite des violences ethniques et sectaires conduirait à la destruction du monde musulman. Lors d'une conférence sur la pensée islamique, la démocratie et la charia à Amman, le monarque jordanien avait également mis en garde contre l'exploitation de la religion pour servir des intérêts politiques, causer la discorde ou propager la haine. Il a exhorté les responsables religieux à dénoncer la violence et les conflits sectaires qui rongent le monde arabe et musulman pour éviter qu'ils se propagent à toute la région. En France, le ministre de l'Éducation a confirmé ces jours derniers le lancement à la mi-septembre d'une charte de la laïcité qui sera affichée dans tous les établissements scolaires publics. Vincent Peillon a demandé toutefois que la question de la laïcité ne tourne pas à l'obsession de l'islam. Validée le 10 juillet par le Conseil supérieur de l'Éducation, elle sera officiellement dévoilée dans sa version définitive 10 jours après la rentrée. Elle rappelle entre autres que les enseignements ne peuvent être contestés sur des motifs religieux. Cette mesure a été accueillie de manière inégale. Par ailleurs, une ordre morale laïque sera instaurée pour les écoliers et les collégiens à compter de 2015. À l'automne dernier à Rome, en marge de la visite ad limina des évêques de France, l'Institut français avait invité 3 cardinaux français à s'exprimer sur la place du fait religieux dans la société. Dans le cadre de nos rediffusions estivales, je vous propose de réécouter l'entretien que nous avait accordé le premier des intervenants le 27 septembre. Le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, avait répondu à la question religion, laïcité de l'État ou laïcité de la société. Xavier Sartre l'avait rencontré à cette occasion.
Laïcité de l'État, ça veut dire une distinction entre la sphère de l'État et la sphère des religions ou la sphère de l'Église. Distinction ne veut pas dire hostilité ou ignorance, mais en distinguant les plans, on peut aussi ne pas empiéter l'un sur l'autre et on peut aussi nouer un certain nombre de relations, à la fois de connaissances hein, aussi, et puis de collaboration, de coopération. Ce qui est distinct d'une conception de la laïcité qui elle-même serait hostile aux religions, qui voudrait donc soit les voir disparaître, mais tout au moins les cantonner dans l'espace purement privé des convictions personnelles. Et donc, cette conception souhaite que les expressions sociales, publiques des religions soient véritablement minorées ou soient très réduites. Et donc, cette espèce de volonté de, comme on dit, comme disent certains, de libérer l'espace public de toute manifestation religieuse. Or ça, je crois que si ces manifestations religieuses ne troublent pas l'ordre public, vouloir les interdire, c'est porter atteinte véritablement à un droit de l'homme qui est celui de la liberté religieuse.
Dans le contexte précis de la France, on parle aussi beaucoup de la laïcité à cause de l'apparition d'une nouvelle religion, enfin... L'apparition, ça fait quand même déjà plusieurs années que l'islam, en l'occurrence, est présent sur le territoire national. Est-ce que vous pensez que cette laïcité, telle que vous l'entendez, peut être justement une chance pour cette religion-là ?
Moi, je pense, si vous voulez, en tout cas, c'est une chance pour une société pluraliste. Parce que si c'était un échec par rapport à l'islam, ce serait aussi un échec pour toute notre société. Mais ça implique, de la part de l'islam, comme de chacune des religions, de pouvoir apprendre à distinguer la sphère de la société civile et la sphère de la vie communautaire. Et donc, de ne pas vouloir imposer à l'ensemble de la société un certain nombre, j'allais dire, d'aspirations ou de demandes qui sont proprement communautaristes. Voilà, donc... En même temps, je pense que ça peut être une chance pour l'islam, pour un certain nombre de musulmans qui ont quitté des situations ou des États dans lesquels l'islam était majoritaire et où, on peut dire, l'État et la religion étaient mêlés sans distinction, de pouvoir, à l'intérieur d'États comme ceux de l'Europe et comme ceux de la France, j'allais dire, s'exprimer en intégrant eux-mêmes une différence. L'Église catholique a appris aussi à vivre cette différence qu'elle avait pourtant dans son bagage, on peut dire. Et je crois que ça a été une grande libération. Je pense que si l'islam intègre cette différence, je crois que il pourra véritablement s'insérer de façon... plus harmonieuse dans la société française ou européenne. Et il vivra que, je crois qu'il fera l'expérience que ce n'est pas quelque chose qui le diminue ou le restreint, mais est la voie du développement normal dans une société pluraliste.
L'Église catholique peut-elle aider à ce propos les musulmans à appréhender cette laïcité, forte de son expérience, justement ?
Nous n'avons pas de leçons à donner, surtout si on ne nous le demande pas, mais on peut être témoin, si vous voulez, auprès de nos amis musulmans, j'allais dire, de ce qui a été notre propre itinéraire et comment nous sommes entrés petit à petit, ça n'a pas été sans mal, ça n'a pas été sans douleur, dans les lois de la République, et comment... nous avons pu arriver à un certain équilibre des relations entre la République et l'Église. Je crois que profondément la foi répond aux attentes les plus profondes de l'homme et en même temps, elle ne répondra pas à certaines attentes immédiates de la modernité.
L'entretien que vous venez d'entendre était une rediffusion. C'est la fin de cette émission, mais je vous invite à nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français. Merci de nous avoir suivis.